Chers frères et sœurs, dans un célèbre roman de Pearl Buck, La mer, il y a une scène qui est très intéressante. La mer, donc cette femme, au moment de commettre l'adultère dans un temple, prend soin de voiler les visages des idoles qui l'entourent, de toutes ces divinités qui sont là. Ce sera, si on peut dire, à leur insu, qu'elle ira vers la faute. Elle le sent bien, et elle ne peut pas paraître face à face avec le divin, car sa faute l'en empêche. Et j'ai vu là comme une magnifique trace de cette exigence du cœur humain, appelé à paraître face à face avec Dieu, créé pour cela, mais pour cela appelé, comme le dit la deuxième lecture, à être immaculé. Cette deuxième lecture, elle est magnifique et j'ai essayé d'en trouver comme peut-être le cœur, le centre. Et j'aime y voir peut-être cette petite phrase qui passe inaperçue, ces quelques mots devant lui. Paraître devant lui, alors il y a mille et une manières de le traduire, devant sa face, devant son visage, en un mot, être devant Dieu. C'est cela comme le cœur de notre vocation. Ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes appelés à être dans une forme de transparence avec Dieu, sans phare, sans voile. C'est ça notre vocation. Il nous a choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables, devant sa face, devant lui, sous son regard. Alors on se souvient tous du livre de la Genèse. C'est Adam qui entend dans le paradis les pas de Dieu. Dieu qui se promène dans ce même jardin qu'Adam. Dieu qui partage le même monde, on pourrait dire. Et puis bien sûr, le drame du péché. Il tend ce péché comme des voiles entre Dieu et l'homme. Dieu devient un Dieu caché. Il se retire dans une lumière inaccessible et l'homme ne supporte plus la lumière de Dieu. Car, comme dit saint Jean, quiconque fait le mal déteste la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Je crois que c'est vraiment toute la signification de l'histoire sainte, mais aussi de chacune de nos histoires saintes. Histoire de ces approximations, de ces avancées vers la lumière, et puis en même temps, perpétuellement, de ce dérobade. Non, je ne me laisserai pas voir. Parole elle-même que nous ne voulons pas nous avouer. Nous ne voulons pas de cette lumière qui nous brûle, qui nous révèle à nous-mêmes, pardon. C'est toujours cette même phrase d'Adam à l'intérieur de nous. Et j'ai eu peur et je me suis caché. Nous aussi, nous nous cachons de mille et une manières. Nous nous construisons un personnage, nous nous racontons des histoires, nous nous croyons meilleurs ou pires de ce que nous sommes, une même façon d'échapper à notre vérité. Et nous nous défions de tout ce qui peut nous apporter la lumière. Elle est très belle pour cela, cette première lecture. C'est Amos qui va prophétiser dans le sanctuaire de Bethel. Alors, sans faire trop d'allusion à l'histoire sainte, mais Bethel, c'est le sanctuaire du Nord que les royaumes du Nord s'étaient choisis quand ils sont séparés de ceux du Sud. Et puis là, qu'ils venaient vénérer le Seigneur. Et Amos ne me remet pas en cause ce culte, mais il dit simplement « Que vaut votre cœur ? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez changé le droit en poison et vous avez traîné la justice à terre. Alors que valent aujourd'hui vos liturgies? Je connais, dit Dieu, la multitude de vos révoltes, l'énormité de vos péchés. Vous êtes oppresseurs du juste, extorqueurs de rançon. Eh bien, cette exigence de vérité, ce rayon de lumière qui perce au milieu de cette pénombre, Amasias, le desservant de Bethel, n'en veut plus. Il n'en veut pas. Il veut pécher en eau trouble. Et il prie Amos d'aller voir ailleurs. Va-t'en avec tes prédictions. Va-t'en, prophète. Nous sommes très bien comme cela. Et pourtant, Amos va rappeler une chose toute simple. Si je parle, ce n'est pas à cause de moi. Si je parle, c'est que ma parole est comme le soleil. Elle se lève chaque matin parce que c'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas ma profession de prophète que je soigne. Dieu m'a choisi derrière le troupeau et m'a fait prophète bien malgré moi, on pourrait dire. C'est ce que nous dit le Seigneur. Si vous les empêchez de parler, la nature parlera. S'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que Dieu veut toujours nous communiquer sa lumière d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions être vraiment devant lui. Je crois que, au moins dans un premier temps, c'est cela, la sainteté. C'est une première étape, mais une première étape qui doit accompagner chacun des moments de notre existence, de notre vie chrétienne, paraître devant la face de Dieu tels que nous sommes, sans nous raconter d'histoire. Et pour cela même, faire feu de tout bois, rechercher la vérité comme d'instinct. C'était vraiment cette exigence de ces âmes de feu. La petite Thérèse qui disait « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». C'était cela, sa sainteté. Et puis, une autre âme de feu, Edith Stein, sainte Bénédicte de la Croix, ma seule frayeur fut la recherche de la vérité, disait-elle, quand elle n'était pas encore convertie à la foi chrétienne. Pas seulement une vérité philosophique, mais la vérité de son existence devant Dieu. Parce que justement, cette recherche de vérité, c'est ce qui nous expose à Dieu, c'est ce qui enlève les voiles, c'est ce qui nous permet d'être exposés à sa lumière, d'être à ciel ouvert, à cœur ouvert, pourrait-on dire, devant lui. Et c'est ce contact avec lui qui nous purifie. Saint Jean encore va nous le dire, nous serons semblables à lui, pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est, parce qu'il n'y aura plus de voile entre lui et nous. Voilà pourquoi la contemplation nous purifie. Voilà pourquoi nous devons chercher toujours cette contemplation. Alors cette contemplation, elle n'est pas réservée à une élite. Ce n'est pas un club de initiés qui pourraient voir Dieu et les autres seraient réduits à finalement être dans les ténèbres. Non, cette contemplation, c'est tout simplement être en familiarité avec Dieu. Et j'aime beaucoup, pour poursuivre avec cette grande sainte qui est Edith Stein, cette anecdote de sa vie. Comment elle a pu s'approcher peu à peu du Seigneur et du Christ? Une des raisons de sa conversion, elle le dit lorsqu'elle la raconte, c'est que elle était dans une grande ville d'Allemagne, je ne sais plus laquelle, et elle voit rentrer dans une cathédrale une femme toute simple, mais qui entre avec son panier à provisions. Elle était en train de faire le marché. Elle entre dans l'église, elle y reste un moment, et puis elle en ressort. Edith a été fort marquée par la simplicité de cette relation avec Dieu. Dans la foi de ses pères, la foi juive, elle n'avait pas toujours trouvé cette même simplicité, cette possibilité d'être, comme je le disais au début, d'être dans le même monde que Dieu. Je peux entrer dans ce temple admirable, cette cathédrale grandiose, séculaire, magnifiquement décorée, mais avec mon panier à provisions. Entre deux courses, c'est cette trivialité de ma vie quotidienne exposée à la face de Dieu. Et elle discerne, cette chère Édith, que c'est grâce au Christ, c'est grâce à lui qu'on peut s'exposer de la sorte. Grâce à lui, comme le dit si bien la lettre aux Éphésiens, que nous pourrons paraître face à Dieu parce qu'il a versé son sang. Et c'est lui qui, au nom de l'humanité tout entière, s'est définitivement exposé à son Père, s'est laissé pénétrer par sa lumière, est entré avec toute son humanité, mais avec toute l'humanité aussi, dans la gloire du Père. Pour que justement, à notre tour, nous rentrions dans cette lumière de Dieu, mais avec notre panier à provision, avec toute notre humanité, sans en laisser un gramme au dehors, ni un navet, ni un poireau. Mais cela ne suffit pas. Se purifier, paraître face à Dieu, cela peut-être peut nous conduire à nous rechercher un peu trop nous-mêmes, à essayer de polir un peu notre image. Pardon, une autre petite allusion littéraire, mais il y a un personnage dans la peste de Camus qui est assez attachant et qui peut nous ressembler à bien des égards. Ce personnage se prend pour un grand romancier et toute sa vie, il va écrire son roman. Il écrit, il s'enferme dans sa chambre et il rédige. Et à la fin, un de ses amis lui dit, tu peux montrer ton manuscrit. Et lui, il lui donne. Et qu'est-ce que c'est que ce manuscrit ? C'est la première phrase de son roman, éternellement réécrite pour la polir à chaque fois mieux. Mais le roman n'avance pas, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de vie. Chers frères et sœurs, que notre vie, ce ne soit pas cela. Nous devons avancer, nous devons marcher avec nous notre imperfection. C'est le sens de l'Évangile. Le Seigneur nous dit « va ». Nous aimons dans notre communauté cette parole qui a été dite à Abraham « marche en ma présence ». Et puis oui, tu seras parfait, mais marche d'abord. Tu seras parfait ensuite. Ne cherche pas la perfection avant de marcher. C'est une trop grave erreur. Qu'est-ce que cela veut dire marcher ? Cela veut dire aussi aller. Aller au-devant de ceux qui ont besoin de nous, comme le dit l'Évangile. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, annoncez la bonne nouvelle. Reproduisez mes gestes, dit le Seigneur. C'est cela la mission. Continuez Jésus par sa parole et par ses actes. Continuez sa charité. Et c'est la mission de chacun d'entre nous. Et cette charité qui nous habite à ce moment-là, eh bien oui, elle couvre une multitude de fautes. Elle nous libère de nos imperfections, de nos péchés. La petite Thérèse, encore une fois, pour la suivre, disait quand elle était trop mal avec elle-même, qu'elle ne s'estimait pas beaucoup, eh bien elle sortait de sa maison, de la maison de son cœur, pour aller voir les autres et pour les servir. Et puis elle reprenait vie, elle reprenait le désir de marcher vers Dieu. Alors voilà, n'hésitons pas à être en sortie. Le pape François n'a cessé de nous le dire. C'est la mission qui nous sanctifie. C'est la mission qui nous achemine vers la perfection. Alors pour ceux qui sont appelés à cette mission de chantre, cette mission d'animateur, eh bien oui, c'est cela aussi qui nous permet d'aller au-delà de nos imperfections. Pour justement retrouver cette joie de communiquer notre désir d'aimer Dieu. Pour terminer, elle est belle, la sainteté des apôtres. Ils n'ont jamais cherché à perfectionner leur image de marque. On croit qu'ils ont fait tout le contraire. Saint Pierre, c'est un peu le patron des gaffeurs, donc il est assez sympathique pour ça. Il va multiplier les moments où il est en mauvaise posture. Il aurait voulu écrire son hagiographie, il s'y serait pris différemment. Alors ça nous fait du bien à nous. ne cherchons pas des postures. Cherchons à aimer Dieu, à aimer nos frères. Mettons toute notre énergie dans cela et rien pour nous regarder. Et notre vie ira mieux. Que notre chant soit aussi cela. Un chant pour louer Dieu, pour toucher le cœur de nos frères, et jamais un chant qui se regarde lui-même. Jamais une liturgie qui se regarde elle-même. Ce serait cette perversion dont parle Amos dans la première lecture. La Vierge Marie est toute transparence. Elle n'a jamais un regard vers elle-même. Elle ne connaît pas le regard réflexe. Le nombrilisme lui est totalement étranger. Alors voilà, prenons-la pour modèle, pour mère, pour grande sœur, et notre vie ira bien.